C'est l'heure du journal, il est 12h30 sur France Culture. C'est à vous Antoine Mercier pour les informations.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La campagne pour le référendum britannique à 8 jours du scrutin. Le ministre des Finances affirme qu'une sortie de l'Union entraînera des hausses d'impôts et des réductions des dépenses. On sera en ligne avec Franck Mathevon dans un instant. Après les violents incidents qui ont marqué la manifestation contre la loi travail hier, François Hollande affirme qu'il n'y aura plus d'autorisation de manifester si les biens et les personnes sont menacés. Manuel Valls met directement en cause la CGT. Accusé d'ambiguïté envers les fauteurs de troubles, nous l'entendrons ainsi que la réaction de la CGT. Qui affirme que menacer d'interdire des manifestations, c'est le signe d'un gouvernement aux abois. Le Premier ministre défend par ailleurs l'action du renseignement et de l'antiterrorisme en France dans le suivi du tueur de Magnanville. Il n'y a eu, selon le Premier ministre, ni négligence ni manque de discernement. Commentaire de Florence Turme. Et puis les 700 000 candidats au bac ont débuté les épreuves ce matin, épreuves de philosophie. Parmi les nouveautés de cette session, la possibilité pour les candidats qui n'ont pas eu leur bac l'année dernière de le repasser ou de ne repasser que les épreuves qu'ils n'ont pas validées. Précision avec Hakim Kasmi. Au fur et à mesure que se rapproche cette échéance du référendum sur la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, l'enjeu de la consultation pour l'Europe et aussi pour l'économie mondiale apparaît de plus en plus nettement. Nous sommes à 8 jours de cette consultation. Le chef du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, Nigel Farage, prend en ce moment même la tête d'une flottille, une 60aine de bateaux pour promouvoir donc le Brexit en remontant la Tamise jusqu'au Parlement. Le baromètre est au beau fixe pour les partisans du Brexit qui sont en tête dans les sondages et qui ont engrangé aussi hier le soutien du quotidien Le Sun. C'est le quotidien le plus vendu au Royaume-Uni. On est avec Franck Mathevon en direct sur la Tamise. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Avec cette flottille, donc, les partisans de la sortie paraissent vraiment avoir du vent dans les voiles.
Oui, c'est la photo du jour hein, de cette campagne référendaire. Tower Bridge, où je me trouve, s'est levé ce matin pour laisser passer une douzaine de chalutiers pro-Brexit, hein, pas tout à fait une soixantaine, chalutiers qui remontent donc aujourd'hui la Tamise jusqu'au Parlement de Westminster, en tout cas pour les bateaux les moins imposants. Les pêcheurs ont actionné leurs sirènes, vous les avez peut-être entendues, au cœur de Londres pour dire tout le mal qu'ils pensent de l'UE. Ils dénoncent les quotas que leur impose Bruxelles et d'une manière générale la politique commune de la pêche. Ces chalutiers qui remontent la Tamise et dont le nombre a été limité pour des raisons de sécurité sont couverts de drapeaux britanniques et de panneaux Vote Leave. La manifestation, vous l'avez dit, est notamment soutenue par le leader du parti europhobe UKIP, Nigel Farage. Des militants pro-UE, c'est à préciser, ont pris place à bord d'autres bateaux pour perturber l'événement, mais ils sont minoritaires.
Voilà, pas de bataille navale quand même sur la Tamise. Le ministre des Finances, George Osborne, affirmait hier qu'une sortie de l'Union pourrait déclencher la mise en place d'un budget d'urgence, affirmait-il. Donc, ça entraînerait des hausses d'impôts, des réductions de dépenses. Donc, c'est une nouvelle fois des mises en garde qui sont faites, notamment par milieux économiques, à la fois britanniques et d'ailleurs internationaux. Est-ce que vous avez le sentiment que ces appels n'ont plus beaucoup d'effet maintenant sur l'opinion ?
Alors, il est certain, Antoine, que les messages des pro-UE semblent de moins en moins audibles dans l'opinion. Leur stratégie, vous le savez depuis le début, consiste à mettre en avant les risques économiques d'une sortie de l'Union européenne. Ils ont sans doute gagné d'ailleurs cette bataille, mais ça ne suffit pas à convaincre les indécis. Et de leur côté, les eurosceptiques ont recentré leur campagne sur l'immigration. En gros, sortons de l'UE pour pouvoir mieux contrôler les frontières et notamment limiter l'afflux d'immigrés d'Europe de l'Est. C'est un message auquel beaucoup de Britanniques sont très sensibles, en particulier l'électorat travailliste. Alors on sait que les conservateurs sont divisés, on le sait depuis le début, divisés, voire plutôt anti-UE, mais David Cameron et le camp du IN comptaient sur les travaillistes pour remporter ce référendum, mais leur leader, Jeremy Corbyn, fait campagne à contre-cœur et les classes populaires sont actuellement tentées par le Leave en raison de cet argument de l'immigration.
Franck Mathevon, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct de Londres. En tout cas, la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne inquiète les marchés. En tout cas, ils baissent, ils ont baissé ces derniers jours. Sarah Petitbon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, inquiétude, est-ce qu'elle se fonde sur des raisons objectives, économiques, ou bien est-ce que c'est interprété comme le signe d'une plus grande dislocation du continent européen ?
Une chose est sûre, Antoine, les bourses ont horreur de l'incertitude et à un peu plus d'une semaine du référendum, ces incertitudes pèsent lourd sur les marchés financiers. Les craintes des investisseurs ont donc provoqué le vacillement de tous les indices boursiers européens. En France, le CAC 40 a encore perdu 2,29% hier, perdant en 5 jours plus de 7,5%. Même chose pour le FTSE britannique qui a lui cédé 2,01% et le DAX allemand 1,43%. L'indice Eurostock, quant à lui, a perdu 1,97% et le FTSE Eurofirst 300 a chuté de 1,86%. La monnaie britannique n'échappe pas non plus à la tourmente, alimentée par les sondages donnant le camp du livre vainqueur et la prise de position du tableau It's the Sun en faveur d'une sortie de la zone euro. La livre qui a donc plongé hier de 1,1% face au dollar. Dans ce contexte, les investisseurs délaissent les actions de la zone euro, préférant se rabattre sur des emprunts d'État jugés plus sûrs, Bund allemand en tête, suivi des taux français ou encore les emprunts d'État suisses ou japonais. Certains analystes se veulent tout de même rassurants, arguant que même si les marchés financiers pâtiraient bien à court terme d'une victoire du camp eurosceptique, les institutions financières devraient faire le nécessaire pour éviter une véritable situation de crise financière. Du côté britannique, la Bank of England pourrait calmer les craintes en abaissant ses taux directeurs. Même chose en zone euro où la BCE pourrait accélérer ses achats d'actifs, protégeant ainsi l'union économique et monétaire.
Sarah Petitbon, merci beaucoup. Nous saluons notre invitée Nicole Bricq. Bonjour.
Bonjour.
Président du groupe socialiste au Sénat. Qu'est-ce qui se passerait en cas de Brexit, selon vous? Catastrophe, pas catastrophe?
Ce serait un mauvais signal politique pour l'Europe entière, mais Brexit ou pas Brexit, je crois qu'il est temps de refonder l'Europe. Et j'avais entendu le président de la République s'exprimer en disant que justement il ferait des propositions après le vote de nos amis britanniques. J'espère bien qu'on va définir un nouveau projet pour l'Europe. Elle en a besoin, elle va mal. On la voit bien, elle a été mise à mal par l'affaire des réfugiés. On a bien vu qu'on était dans l'intergouvernemental. Il faut au minimum, revoir tout ça au sein de la zone euro, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
C'est ça le problème. Absolument. Est-ce que c'est préparé, absolument, cette initiative? Absolument. Elle est en train de se préparer, cette initiative?
Absolument. Moi, j'avais regretté au début du quinquennat que Mme Merkel avait fait des propositions. On n'y est pas répondu. Il faut remettre ça sur la table maintenant, bien sûr.
Nicole Bricq, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.
Après l'assassinat d'un policier et de sa compagne avant-hier soir près de Paris, le Premier ministre défend ce matin l'action du renseignement et de l'antiterrorisme en France.
Manuel Valls a écarté l'idée de centre de rétention pour les personnes radicalisées, une idée portée par la droite, ce matin encore par Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui parle d'isoler sur un territoire lointain les populations dangereuses. Dans le suivi du tueur de Magnanville, il n'y a pas eu, selon le Premier ministre, de négligence ni de manque de discernement, ni négligence, ni manque de discernement. Est-ce que c'est vraiment le cas, Florence Turm, et est-ce qu'on ne peut véritablement rien faire de plus?
Hier, le procureur François Molas avait en quelque sorte anticipé ces critiques qui se font jour sur un supposé laxisme judiciaire vis-à-vis des terroristes en retraçant l'itinéraire délinquant de la Russie à Bala. Première condamnation pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste prononcée en 2013. 2 ans et demi de prison ferme couverte par la détention préventive. Dans ce dossier, il fait office de suiveur, mais pas de leader. Les charges contre lui sont ténues, précise Marc Trévidic, le juge qui l'a mis en examen. La peine est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 2 ans qu'il respecte sans incident. La Russie à Bala fait l'objet d'une fiche S et en février dernier se retrouve visée par une nouvelle information judiciaire en relation avec une entreprise terroriste. À la clé des écoutes de ces différentes lignes, des interceptions téléphoniques et des géolocalisations, mais rien qui permette de déceler la préparation d'un passage à l'acte violent et de justifier une interpellation, insiste François Molins. Ce matin, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a rappelé qu'en France, la justice ne jugeait pas les intentions, mais les faits. En rejetant l'enfermement de personnes radicalisées réclamées par certains élus de droite, le Conseil d'État s'est d'ailleurs prononcé sur le sujet en décembre 2015. La création de tels centres impliquerait une modification de la Constitution. En revanche, ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que le parquet antiterroriste a déjà opéré concrètement un renforcement de sa politique pénale en criminalisant certains dossiers pour des suspects qui seraient alors jugés devant une cour d'assises spéciale avec des peines encourues beaucoup plus lourdes. D'ores et déjà, dans les procès correctionnels, ils sont de plus en plus nombreux. Le parquet requiert désormais presque systématiquement des peines de sûreté.
Merci beaucoup Florence Turm. Une minute de silence observée tout à l'heure à midi au ministère de l'Intérieur, dans les commissariats de France aussi, en hommage aux policiers et à sa compagne assassinée. Lundi lundi soir, hommage rendu place Beauvau en présence notamment du président de la République. La vidéo mise en ligne sur Facebook par le tueur de Magnanville est la dernière illustration en date du caractère très sensible de ces diffusions de contenu en direct. Vidéo relayée donc par un média lié à l'État islamique. Diffusion qui souligne les défis qui se présentent maintenant pour les géants du web, Facebook, Twitter, YouTube, qui vont devoir relever ces défis alors qu'ils développent le live streaming, capacité offerte à des centaines de millions d'internautes instantanément de diffuser des contenus vidéo en direct. Antoine Maret.
Effectivement, depuis plusieurs mois, ces vidéos en direct se multiplient, avec notamment le fameux Periscope qui a connu un gain de notoriété au moment de Nuit Debout. Le live streaming, c'est la possibilité pour vous et moi, avec un smartphone et une connexion Internet, de faire sa propre chaîne de télévision en direct. Avec toutes les déclinaisons possibles, filmer une manifestation, montrer sa vie quotidienne, pousser un coup de gueule, diffuser un concert. Mais bien évidemment, comme à chaque innovation technologique, certains détournent l'objectif initial de convivialité ou d'expression à des fins beaucoup plus sombres. En mars, 3 hommes ont ainsi violé en direct sur Periscope une femme devant 2000 internautes. Et le mois dernier, c'est une jeune Française qui s'est jetée sous un train en diffusant la scène sur cette même application. Jusqu'à donc ce live terroriste lundi soir. Et le problème, c'est qu'il est pour l'instant impossible d'empêcher ce genre de dérapage. Car s'il est possible de contrôler a priori la diffusion d'une vidéo enregistrée, pour une vidéo en direct, c'est par définition impossible. Alors pour le moment, les géants du web qui proposent ces live streaming se contentent d'un contrôle a posteriori. Les internautes peuvent signaler des vidéos choquantes, mais le délai de traitement est long, 24 heures en moyenne, beaucoup trop pour éviter les diffusions virales où un clic permet le partage d'un contenu. La solution serait sans doute à chercher du côté d'un outil automatisé permettant d'identifier les vidéos sensibles, mais pour le moment, cet outil n'existe pas.
Merci Antoine Maret, vous avez mis devant nous un appareil qui nous live stream.
Periscope en direct.
Periscope en direct, on a du monde sur Periscope.
On a quelques followers.
Bon, très bien. Bon, en tout cas, j'espère que les auditeurs restent à l'antenne devant leur radio, car il n'y a rien de mieux que la radio, la parole avant l'image.
C'est vrai. Le Premier ministre s'est rendu ce matin avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à l'hôpital Necker, où l'enfant orphelin du couple de policiers assassinés a été accueilli par des équipes pédagogiques. La coïncidence a voulu que cet hôpital soit vandalisé par des casseurs hier, en marge de la manifestation anti-loi travail.
Oui, il y avait au moins 125 000 personnes, c'est le chiffre des autorités. 1 300 000, selon les syndicats et les organisateurs, à manifester donc en France contre ce projet de loi sur le travail qui est actuellement en discussion au Sénat depuis le début de la semaine. À Paris, au moins 29 policiers et 11 manifestants ont été blessés dans ces incidents. Manuel Valls réaffirme ce matin qu'il ne va pas changer le projet de loi travail, donc il ne touchera pas notamment le fameux article 2. Et il dénonce surtout l'attitude ambiguë, dit-il, de la CGT à l'égard des casseurs. On l'écoute.
Je demande à la CGT de ne plus organiser ce type de manifestation sur Paris. On ne peut plus avoir ce spectacle désolant, cette fuite en avant, cette absence de contrôle du syndicat, des organisateurs de cette manifestation sur leurs propres manifestants. Donc ça suffit. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Nous sommes confrontés à une menace terroriste. Nous avons des policiers qui sont confrontés à des missions de plus en plus lourdes. Nous sommes en train d'organiser, nous accueillons l'Euro de foot dans des conditions, vous le savez, difficiles. Chacun doit assumer ses responsabilités. Le texte sur la loi travail n'évoluera pas. Chacun l'a bien compris et a compris la détermination du gouvernement. Ce n'est pas une posture, c'est parce que nous pensons que c'est un texte qui, encore une fois, répond à l'intérêt général. Quand on n'est pas capable d'organiser une manifestation, quand on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, quand on laisse 700 à 800 casseurs au sein même de la manifestation, qu'il y a une attitude ambiguë hier, incontestablement, vis-à-vis de ces casseurs. Et donc, quand on n'arrive pas à assumer ses responsabilités et à faire le tri, eh bien alors, on n'organise pas ce type de manifestation qui peut dégénérer. C'est le bon sens.
Manuel Valls avec Patrick Cohen ce matin. Et à l'instant, François Hollande, cité par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, affirme qu'il n'y aura plus d'autorisation de manifester si les biens et les personnes devaient être menacés. Nicolas Sarkozy demande que soit engagée la responsabilité civile et financière de la CGT. Voilà pour quelques réactions. Et on est en ligne avec Jean-Pierre Mercier, qui est délégué CGT pour le groupe PSA. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Attitude ambiguë du service d'ordre de la CGT qui n'assume pas ses responsabilités. Même Jean-Christophe Cambadélis qui demande à la CGT une pause dans les manifestations. Et puis François Hollande qui va peut-être un peu plus loin en disant bah, s'il devait y avoir des risques pour les biens et les personnes, il n'y aurait plus d'autorisation de manifester. D'abord sur les accusations qui visent directement votre syndicat, est-ce que vous êtes responsable en partie de ce qui s'est passé ?
Moi, je rejette complètement toutes ces accusations. D'abord, je tiens à condamner fermement tous les voyous qui sont intervenus, les casseurs. Quand on s'en prend à l'hôpital Necker, c'est évident que ça ne correspond absolument pas à l'intérêt général du mouvement et de la mobilisation. Ça ne correspond pas du tout aux valeurs de la CGT et du monde du travail au sens large. Et moi, je pose la question. Je suis d'abord convaincu que le service d'ordre de la CGT n'a pas été du tout ambigu. Sa première mission est de protéger le cortège, de protéger les manifestants de toute attaque étrangère à la manifestation, que ça soit des violences policières ou que ça soit des voyous et des casseurs. Ça, c'est la première chose.
Oui, mais alors est-ce qu'il ne peut pas intervenir sur ces casseurs que l'on voit, qui apparaissent souvent, même au début des défilés, les faire sortir en tout cas du défilé?
C'est compliqué, parce que les casseurs sont encadrés par les CRS. Hier, j'ai bien vu, ils étaient encadrés par les CRS, et les CRS les ont laissés faire. Ils ont laissé faire ces centaines de casseurs, cassés tout au long du cortège, et derrière, vous aviez la manifestation, qui se déroulait d'une manière extrêmement apaisée, extrêmement pacifique, avec des slogans, etc.
Donc là, vous accusez le gouvernement de laisser faire, alors.
Manifestation.
Vous accusez le gouvernement de laisser faire, les forces de l'ordre qui retiendraient.
Et on voit bien, en fait, à quoi peut servir cette complicité entre les forces de l'ordre et les casseurs, que ça salit le mouvement, comme d'habitude, ça menace la CGT et derrière ça menace la mobilisation, les futures mobilisations. Et vous savez, le gouvernement n'a pas réussi à faire taire les salariés avec le 49-3, il n'a pas réussi à les faire taire avec l'Eurofoot, il n'a pas réussi à les faire taire avec les intempéries. Et ben là, il essaye de les faire taire en utilisant les casseurs. Et ben ça marche pas. Ce terrain, il est extrêmement mauvais pour le gouvernement. S'il continue sur ce terrain-là, il n'aura pas. Il réussira pas à nous faire taire. Oui, nous allons continuer à manifester, continuer à faire grève, continuer à se faire entendre, parce que ce projet de loi, il est rejeté par la majorité de la population. Il y a une écrasante majorité de travailleurs et c'est ça qui compte.
Jean-Pierre Mercier, merci beaucoup. De la CGT, donc PSA, Nicole Bric, je voyais réagir pendant que parlait Jean-Pierre Mercier de la CGT. Vous n'êtes pas d'accord, évidemment, sur le fait de se dire que le gouvernement ne serait pas complètement étranger au fait que ces casseurs aient une certaine latitude, marge d'action.
Non, je suis scandalisée parce que c'est tellement la grosse ficelle de dire que c'est la faute du gouvernement parce que les CRS regardent et laisse les casseurs faire ce qu'ils ont fait. C'était odieux ce qu'on a vu à la télévision. Bon, moi j'ai un petit frisson d'horreur par rapport à ce petit enfant dont les parents ont été tués, qui était à Necker. Les CRS auraient laissé alors que leurs propres camarades ont été tués lâchement à leur domicile, auraient laissé faire les casseurs taper sur l'hôpital Necker. Non mais c'est pas possible ça. Et le Premier ministre a raison quand il dit, quand on n'est pas capable d'organiser une manifestation, on la fait pas. Parce que moi, mon âge me permet de dire que j'en ai fait des grandes manifestations. Et je peux vous dire que le service d'ordre de la CGT, il veillait au grain avant, pendant et à la fin de la manifestation, parce qu'on sait très bien ce qui se passe à la fin des manifestations. Donc c'est très grave ce qui se passe et c'est vrai qu'ils ont raison de dire qu'il faut arrêter.
Alors, il y a aussi François Ruffin autour de la table depuis le début de la première partie donc de la grande table. Et vous vouliez réagir parce que vous y étiez hier à cette manif.
Oui, tout à fait. Surtout, je lui tiens à signaler que hier, j'ai vu... Donc, nous, on est en point fixe sur la manif. J'ai vu des gens défiler pendant 3, 4, 5 heures, de 13h à 18h. Ça n'a pas cessé de défiler. Donc, déjà, les chiffres qui sont annoncés par la préfecture sont complètement invraisemblables.
Ça, c'est pour les chiffres, pour les casseurs.
Et je dirais quand même, Mme Bric parle de grosses ficelles dans les propos de Jean-Pierre Mercier, mais la grosse ficelle, elle est aussi du côté de Manuel Valls. Parce que quelle opération de diversion quand même quand on a ça ça dans les rues.
Mais oui. On va organiser ça. On paye les casseurs, peut-être.
Je n'ai pas dit ça. Alors là, vous me prêtez des propos que j'ai absolument pas tenus. Mais quelle opération de diversion? On ne parle pas des chiffres réels de la mobilisation d'hier. On ne parle plus que de l'hôpital Necker. Je dis pas que.
Vous avez vu les images?
Je suis hostile à cette casse, mais on voit bien, en tout cas, que ça permet de passer sous silence. Parce que là, ça fait passer la CGT comme étant isolée. Aujourd'hui, ceux qui sont isolés, c'est Valls et la CFDT.
Alors, en tout cas, selon la préfecture, il y avait quand même un millier de personnes cagoulées appartenant à la mouvance contestataire radicale, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais enfin, on va sans doute nous l'expliquer dans un petit instant, qui s'en sont pris donc à coups de projectiles aux forces de l'ordre. Ils ont commis d'importantes dégradations, 58 interpellations, rappelons-le, 24 policiers blessés, aussi 17 manifestants. Violaine Voldoir, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on sait quand même précisément de ces groupes de casseurs supposés appartenir à cette mouvance contestataire radicale?
Eh bien, ce que l'on observe, Antoine, c'est qu'aujourd'hui, dans les cortèges, beaucoup de ces hommes et femmes en noir, projectiles en main, n'avaient jamais manifesté, ou presque, avant le mouvement contre la loi travail, contrairement à certaines apparences. Et s'ils s'habillent avec des cagoules, des masques de plongée et des casques de ski, c'est d'abord pour se protéger des charges policières, disent-ils. Et c'est au fil des manifestations qu'ils hésitent de moins en moins à envoyer divers projectiles en direction de la police. Certains disent aussi vouloir être simplement là, pour faire nombre, et entendre compliquer le travail de la police lors des interpellations, en étant comptés comme des casseurs, et ils sont de plus en plus nombreux, leur présence a triplé en tête de cortège depuis le début de la mobilisation contre la loi El Khomri. Parmi eux, certains vont plus loin, mais ils n'adhèrent que rarement à une idéologie radicale. Contrairement aux Black Blocs, ces groupes, le plus souvent anarchistes, sont aussi divers qu'organisés, mais ils ont un point commun. Leurs actes de violence sont très préparés, avec de vraies armes comme des cocktails Molotov, et sont censés s'attaquer à des symboles, des banques, des institutions, des forces de l'ordre. Leur objectif est politique, il est d'augmenter le niveau de violence entre les forces de l'ordre d'un côté et de l'autre côté, du côté des casseurs, pour créer une situation insurrectionnelle. Dans les rangs de ces casseurs, il y a bien sûr ceux qui se comportent en hooligans et ceux défoulent au hasard contre l'hôpital Necker hier après-midi, un acte condamné par de nombreux militants politiques dans la manifestation d'hier. Et pourtant, au sein de ce mouvement social assez large, ils sont nombreux à considérer que le casseur n'est pas leur ennemi, bien que tous et toutes ne se livrent pas à des actes de violence. Une image, celle du 1er mai, les forces de l'ordre encerclent la place de la République à Paris. Des individus, casseurs, caillassent violemment CRS et gendarmes. Les participants à Nuit Debout s'interposent alors, bras levés, en signe d'apaisement entre les CRS et les casseurs. Un positionnement à l'image d'une contradiction, pas contre les casseurs, mais pas avec eux non plus.
Violaine Voldoir, merci beaucoup pour ces précisions. On se retourne une dernière fois vers vous, Nicole Bric. Pour revenir à cette question de la loi travail, puisque c'est au Sénat que ça se passe en ce moment, mais on a vraiment l'impression que tout ce parcours parlementaire n'a plus beaucoup de sens. Le Sénat va détricoter tout ça, la droite parlementaire va redurcir la loi, l'Assemblée va la remettre d'aplomb avec le 49-3. L'affaire sera pliée. À quoi ça sert encore de discuter au Sénat et à l'Assemblée ce texte?
Un texte qui a été beaucoup travaillé par nos collègues députés socialistes. Il y a quand même eu 761 amendements qui ont été acceptés par le gouvernement. Donc il y a eu un gros travail. C'est quand même normal que le Sénat y apporte. C'est la deuxième chambre. Ou alors il faut supprimer le Sénat.
Il faut qu'elle suive son parcours parlementaire.
Et ça nous permet à nous, socialistes qui soutenons Myriam El Khomri et le gouvernement, ça nous permet de faire peut-être ce qui a manqué au début, c'est-à-dire la pédagogie de la réforme. C'est pas une boîte à outils, cette loi. C'est pour ça qu'elle suscite beaucoup d'interrogations dans la population. C'est que, effectivement, elle propose un changement de paradigme par rapport à des habitudes, par rapport à des conforts. Ça nous permet, nous, attaquer par notre extrême gauche et attaquer par la droite, ça nous permet de développer une pédagogie. C'est pas uniquement de dire « au secours, la droite revient », c'est aussi de montrer que si ce projet remue tant d'opinion, c'est que effectivement, au travers de ça, de la démocratie sociale, du dialogue au plus près des salariés, il y a une philosophie et nous la partageons et nous la défendons.
Merci Nicole Bric beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bon, au milieu de tout ça, c'est le début du bac. 700 000 candidats ont commencé les écrits du baccalauréat ce matin avec l'épreuve de philosophie.
Et parmi les nouveautés de cette session, la possibilité pour les candidats qui n'ont pas eu leur bac l'année dernière de ne repasser que les épreuves qu'ils n'ont pas validée et c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Hakim Kasmi.
Et Antoine, à chaque année, 10% des candidats ne décrochent pas leur bac. Si une partie préfère arrêter leurs études pour rentrer dans le monde du travail, la majorité repasse l'examen. Comme William Marie, qui est en terminale ES à Marseille, il veut repasser cette année l'économie, l'allemand et les mathématiques.
Quand je compare mon premier trimestre et le deuxième et le troisième, c'est vrai qu'au premier, j'avais quand même un taux d'absentéisme plus fort, du coup, comme les autres fois, c'était les cours où j'étais dispensé. Je me disais, bah, autant pas aller en cours la journée. Et le fait de nous obliger, ça m'a quand même permis de ne pas décrocher et à être encore plus motivé.
Lutter contre le décrochage, c'est tout l'enjeu de cette réforme, car chaque année, 140 000 élèves quittent prématurément le système scolaire. Sauf qu'en fait, les proviseurs, qui auront aussi l'obligation de garder dans leur établissement les redoublants du bac, eh bien, ne voient pas de bon augure cette mesure. Philippe Vincent, secrétaire général adjoint du SNPDEN, le principal syndicat des proviseurs.
On sait qu'aujourd'hui, un des premiers problèmes, c'est l'absentéisme des élèves en matière de décrochage. Si on, entre guillemets, on leur met à l'évidence devant les yeux des modèles de présence à la carte, notre crainte, c'est que ça se multiplie à l'envi. Des élèves dans une terminale, s'apercevant qu'un de leurs camarades ne peut venir que de manière un peu anecdotique ou de manière très temporaire, s'y croient autorisés aussi, alors qu'ils ne sont pas du tout dans le même cadre.
Les chefs d'établissement réclament donc plus d'enseignants pour mettre en œuvre cette mesure, car c'est au lycée que la hausse démographique est la plus importante, plus 35 000 élèves cette année, une hausse qui devrait encore se confirmer l'année prochaine à la rentrée de septembre.
Hakim Kasmi, la météo un temps toujours gris avec des averses localement, des orages, notamment sur la moitié sud, des températures de 15 à 28 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.